Bonjour, bienvenue à Question d'aujourd'hui, l'émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Est-ce que des gens peuvent nous aider à obtenir justice, peuvent nous accompagner dans des moments difficiles? Eh bien, c'est ce que notre invité va nous parler aujourd'hui et je suis absolument heureuse d'être avec Ana Paula Pessoa qui est avocate de formation et qui est aussi engagée socialement. Merci d'être là, Ana Paula.
Merci, Renaud. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Eh bien, on est sur la rive nord de Montréal. Quelquefois, je dis aux auditeurs, aux auditrices que j'aime bien sortir du studio pour rencontrer des personnes. Donc, on est sur la rive nord de Montréal. Et Ana Paula, vous avez un cheminement qui vous a amené du Brésil au Canada. D'abord, vous présentez un petit peu aux auditeurs et aux auditrices.
OK. Donc, en 2011, moi et mon époux, on a décidé d'émigrer au Québec. Puis c'était depuis 4 ans à peu près de planification, des questionnements, de discernement aussi. Mais finalement, on a décidé de venir. À l'époque, j'étais avocate au Brésil. J'étais toujours impliquée auprès de personnes très vulnérables, auprès des jeunes contravenantes dans un centre de réadaptation. Après, j'ai travaillé comme médiatrice en droit de la famille. Et j'ai eu toujours cet appel depuis que j'étais à l'université de faire quelque chose pour être proche des gens. J'aimais pas la question d'être en droit dans une salle en bureau fermé avec des dossiers. Je voulais être avec les gens. Et je pense que depuis le début que j'étais dans ces chemins vraiment sociaux auprès de personnes vulnérables. Donc, j'ai travaillé en équipe multidisciplinaire avec des collègues psychologues, travailleurs sociaux. Donc, c'était vraiment une approche depuis le début de ma carrière multidisciplaire.
Au Brésil.
Au Brésil, exact. Du moment que j'ai déménagé au Québec, donc j'avais un enfant de 2 ans et demi, je pensais pas que j'allais poursuivre ma carrière comme avocate au Québec parce que j'étais en train de pratiquer le français, je voulais avoir d'autres enfants. Donc j'ai décidé alors d'aller vers l'intervention psychosociale. Je suis allée suivre une formation à l'Université de Montréal. Et j'ai travaillé comme intervenante psychosociale à Montréal pour une maison de la famille, auprès aussi de familles très vulnérables, des parents des enfants de 0 à 5 ans. Et depuis qu'on a décidé de déménager, j'étais enceinte de mon deuxième enfant sur la rive nord, c'est là que j'ai vu qu'il avait un poste qui s'affichait pour être agent des pastorales pour les diocèses de Saint-Jérôme. Comme j'étais depuis mon jeune âge bénévole au Brésil, en paroisse auprès des jeunes, donc j'ai dit oui, je veux ces postes-là. Donc j'étais alors acceptée au poste et j'ai travaillé pendant 6 ans à la paroisse Sainte-Famille à Blainville comme agent des pastorales. À ce moment-là, donc les droits étaient vraiment loin d'être une réalité pour moi au Québec. Mais ce n'est que dans un cours que je suivais pour en certificat en théologie avec un professeur qui était avocat et en même temps très engagé au niveau social. Donc, il partageait son expérience auprès de personnes très vulnérables dans les projets de Mère Teresa. Et j'étais enceinte de ma fille. Je n'étais même pas supposée de suivre ces cours-là, mais quand j'entendais ces profs parler, ça me fait vraiment relayer mon histoire. Depuis le début, comme avocate auprès des gens souffrants, je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai pu faire à ce niveau-là. Lier la justice, la foi, les sociales, j'ai senti vraiment une grande appel. Je suis arrivée à la maison et j'ai dit à André, mon époux, j'ai dit, Gagne, je pense que j'ai vu vraiment révalider mon diplôme en droit. Il m'a regardé comme si c'était une blague en disant, mais comment ça, Anna? Tu es enceinte, on a 2 jeunes enfants. Mais j'ai dit, André, j'ai vraiment un appel profond. Et je lui ai raconté, j'ai dit, j'avais même des frissons. Et je veux vraiment, j'ai dit, je vais discerner. Donc, il dit, mais si c'est ça vraiment que tu veux, on va s'aider. Donc, on va aller de l'avant. Et c'est ça. Donc, j'ai commencé avec des petits pas. J'ai fait une demande au barreau au Brésil pour ramasser tous mes documents. J'ai fait une demande au barreau ici pour voir qu'est-ce que je devrais avoir pour révalider mon diplôme. Et j'ai décidé de raconter ça à mon équipe de travail. Et j'ai eu tout en support et en soutien des gens qui disaient, Anna, oui, go dans ton projet.
Donc, Ana Paula, vous êtes avocate au Brésil, vous venez au Québec, vous êtes engagée comme agente de pastorale. Donc, en même temps, vous vous formez comme agent de pastoral, vous faites votre théologie, mais en même temps, vous voyez, grâce à un professeur et un cours et peut-être d'autres influences, que vous avez une double vocation, si je comprends bien. Une vocation avec les familles, mais comme avocate. Est-ce que je résume bien votre cheminement?
Oui, tout à fait. Parce que moi, c'est comme re-choisir une carrière, c'est quelque chose. Depuis d'avoir vécu une expérience d'immigration, de recommencer la vie des zéros, de commencer à parler une nouvelle langue, d'être auprès de gens qui vivent à peu près la même réalité que moi, d'immigrer dans un autre pays. Avec tous ces bagages aussi, mon expérience en tant qu'mère, expérience des familles, expérience auprès d'autres familles, de cheminer vraiment avec d'autres familles qui étaient en recherche de sens, qui se questionnaient. J'ai vu vraiment que il y avait quelque chose qui pourrait se faire et c'était comme plus fort que moi. Et je voyais que tous les chemins que j'ai parcourus jusqu'à date, ils s'interliaient. Et c'est ça, donc je savais pas comment ça allait se faire, mais j'avais une grande confiance que j'étais sur la bonne voie. J'avais mon expérience comme avocate au Brésil, j'avais mon expérience comme intervenante psychosociale au Québec, j'avais mon expérience dans ma foi auprès des gens, dans une ouverture d'esprit. Et je suivais en cours qui pour moi c'était de me recentrer sur mes valeurs profondes. Et c'est dans cet espace que j'ai discerné que j'ai décidé de redevenir avocate ici. C'était certain pour moi que c'était en lien avec la justice sociale.
Vous êtes enceinte de votre troisième enfant, une petite fille qui s'en vient, et vous devez donc compléter, si je comprends bien, des cours pour avoir le droit d'exercer comme avocate.
Oui, c'est ça. Il avait un long chemin à parcourir. D'abord, de refaire 45 crédits à l'université. Les cours étaient la majorité des soirs. C'était des déplacements de la Rive-Nord à Montréal, l'Université de Montréal. Donc, on a dû vraiment faire toute une organisation familiale. Je t'avoue que c'était pas si facile. Vers la fin de ma formation, je me sentais vraiment épuisée. Qui j'arrivais même à m'y remettre en question si j'étais sur la bonne voie. Parce que quand j'ai commencé, parce que c'est en gros un grand processus, ma fille elle était proche d'avoir 2 ans quand j'ai commencé à aller à l'université. J'ai pris en cours, donc j'allais doucement aussi pour diminuer mon temps de travail, pour concilier travail-famille avec tout le support de mon époux aussi. Donc, mais de toute façon, ça devient quand même lourd de retourner aux études, 3 cours par semaine, avoir des examens à faire et avec tout ces cheminements du barreau après. Donc, c'est vraiment 45 crédits après école du barreau, examen du barreau, 6 mois des stages. Mais j'ai dit un pas à la fois. C'est ça. En cours de route, comme j'ai été dit, je me sentais un peu épuisée, mais là, j'ai ralenti un peu plus. La pandémie est arrivée, ce qui a fait en sorte pour moi que ça m'a permis vraiment de prendre mon temps. Et c'est ça, c'était beaucoup des petits pas que j'ai faits. J'avais comme un petit grain de moutarde que j'ai regardé. J'ai suffi juste que j'aille ça, que je fasse mes petits pas. Et c'est dans cette énergie-là et avec ma famille, tout le soutien de mes amis que finalement, j'ai réussi à terminer mes études et à être assermentée au barreau comme avocate en 2021.
Félicitations d'avoir été assermentée. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être... Comment vous avez pensé, quelle aptitude ou quelle qualité vous deviez avoir pour réaliser ce rêve d'intervenir auprès de familles souffrantes et de femmes et d'hommes souffrants et d'enfants souffrants aussi?
Moi, quand j'ai senti l'appel dans mon cœur de redevenir avocate ici, une chose qui est venue à mon cœur, c'est de dire, regarde, j'ai pu être l'avocate que je veux être avec mes propres couleurs, avec mon authenticité. C'est ça que je me disais. Il faut que je sois authentique. Il faut que je porte les valeurs qui m'habitent. Et pour moi, d'abord, d'avoir de l'ouverture auprès des gens, de ne pas avoir des jugements envers les gens, mais d'avoir un esprit vraiment ouvert, de les accueillir là où elles sont rendues, de s'intéresser à elles, d'avoir un regard de bienveillance, de la prendre en sa globalité avec tout son être entier, comme un être humain. Ce n'est pas juste de venir les livrer, les juridiques, mais c'est de dire, de regarder d'une façon plus globale, parce qu'il y a plein, quand on parle d'une personne vulnérable, c'est toute une complexité. Il y a beaucoup d'enjeux ensemble. Donc, c'est de dire, qu'est-ce que je peux apporter au-delà du légal, parce qu'il est légal, les gens, on va se former, on va voir la loi, on va connaître, mais qu'est-ce que je peux offrir de plus? Je pense à une présence bienveillante. Une écoute sans jugement, un désir d'aider cette personne, même si je n'ai pas la solution à son problème, mais juste d'être une petite lumière qui va la référer vers une ressource, une service, ou juste même de la laisser ventiler ce qu'elle vit. Donc, ça fait déjà toute une différence. Donc, en plus, moi qui travaille en droit de la famille, c'est ça ma réalité, c'est de travailler auprès des personnes qui vivent des situations très difficiles. On parle de séparation, on parle des divorces, on parle de conflits de séparation, violence conjugale, des enfants qui sont exposés. Donc moi, je vois dans cet espace comme une possibilité d'aider ces gens à traverser ces situations difficiles avec bienveillance et de garder les bons et d'offrir les bons aux enfants aussi.
Ana Paula Pessoa, comment vous cultivez la bienveillance? Il doit y avoir des moments où les situations doivent être tellement souffrantes et difficiles que vous avez à vous écouter, vous voulez, comme vous dites, apporter une lumière, avoir un accueil bienveillant, une écoute bienveillante. Comment on fait pour, je dirais, garder cette bienveillance active et que à un moment donné, ça dépasse pas les capacités humaines. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un truc?
C'est vrai que j'étais humaine, mais parfois, j'ai sens la charge. J'ai dû aussi apprendre à travailler ça aussi, de ne pas vouloir prendre la place de la personne ou d'avoir trop de sympathie, mais d'être empathique. Donc, là, c'est des stratégies en intervention psychosociale. Mais je porte beaucoup la valeur de la justice. Et parfois, je vois des gens qui vivent beaucoup d'injustice. Ça vient me chercher. Mais une chose que j'ai fait, c'est de dire, garde, moi, dans toute cette structure, dans toute cette immensité qui est la vie de cette personne, dans l'espace que je suis aujourd'hui, avec la force que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je peux faire pour ne pas vouloir porter toute la responsabilité, même les responsabilités des autres. Donc, je me tiens à mon espace et je dis, gaffe, dans cet espace, donc c'est avec bienveillance, écoute et ouverture que je vais travailler pour faire bien ce que je peux faire pour cette personne. Ça m'apaise et quand je vois que la personne, elle se sent est vraiment plus légère, que la personne me regarde avec un sourire, que la personne me dit, ça me fait du bien de savoir, donc j'ai la réponse que j'ai fait mon beau travail. Donc, je n'ai pas comme le désir de... Parfois, on s'y sent un peu impuissante parce qu'on pense qu'on devrait faire des gros changements, des grands changements. Moi, j'ai dit, chacun a sa responsabilité dans ce tout qui est la vie. Et moi, dans mon espace, moi, je me tiens à donner les meilleurs de moi-même. Et donc, et plus je pense comme ça, plus ça m'apaise, plus je m'y ressens sur mon travail. Je pense plus que je peux offrir vraiment une intervention qui va répondre aux besoins de la personne que je rencontre.
En compagnie d'Ana Paula Pessoa, vous êtes à l'écoute de l'émission Questions d'aujourd'hui. Nous avons la chance de rencontrer une avocate engagée socialement qui, disons-le, a fait énormément d'efforts pour être à jour comme avocate, pour pouvoir exercer ici. Et vous êtes spécialisée dans le droit de la famille. Qu'est-ce que c'est que le droit de la famille?
Alors, les droits de la famille, c'est les droits qui va venir pour encadrer toute situation qui concerne la famille. Là, on parle de, quand on parle, mettons, de séparation, on va parler des gardes d'enfants, de pension alimentaire, partage des biens. Si on parle d'un couple qui est marié, donc, tous les partages des biens. peut-être qu'une pension alimentaire pour ex-époux aussi, ou d'autres sortes de compensations pour venir vraiment équilibrer des inégalités. Parce qu'on sait qu'une famille, quand s'y marie, parfois on fait des choix, hein, des choix familiales, et on dit, OK, un va se dédier plus à sa carrière, l'autre va se dédier plus aux enfants, mais on reste une famille. C'est-à-dire que chacun va contribuer avec ses forces et ses capacités. Mais quand on parle d'un divorce quelques années d'après et qui un dit, mais non, moi je travaille, un part avec une carrière qui est faite, l'autre est arrivé proche de l'âge de la retraite, mais n'a pas développé sa carrière, mais a dédié toute sa vie aux enfants, à la famille. Donc, la loi vient vraiment pour rendre ça plus équitable au niveau de partage, pour que les deux puissent répartir quand même dans une situation avec pas beaucoup d'écart. Donc, c'est de rendre vraiment justice. C'est de dire, regarde, il y a un devoir quand même de collaboration, d'assistance. Donc, la loi vient vraiment pour un peu baliser cette situation. Donc, on peut parler aussi parfois d'adoption. J'ai eu des dossiers d'adoption quand j'ai travaillé en pratique privée. J'ai travaillé une partie en pratique privée quand j'ai commencé. J'ai eu la chance de travailler avec des belles personnes en pratique privés qui m'ont appris, qui m'ont aidé à garder mes valeurs, mais en coup de chemin, donc je sentais cet appel d'aller plus vers les communautaires. C'est quand j'ai décidé d'aller à Justice Pro Bono, donc je travaille à Justice Pro Bono aussi, en faisant la coordination d'un programme qui s'appelle le Porte 33 en droit de la famille, où moi j'avais la coordination d'une clinique socio-juridique qui existe aujourd'hui, donc qui offre à toute la population au Québec, aux parents des enfants, des rendez-vous avec des avocats pro bono, sans rien charger.
Donc hein? C'est ça, pro bono.
Exact.
Mais qui ont besoin de rencontrer donc des familles, des personnes.
Exact.
Qui ont besoin de rencontrer des avocats pour avoir des conseils.
Des conseils d'éclairage, d'informations juridiques. Et c'est vraiment très ponctuel, donc c'est une clinique où la personne va rencontrer un avocat en présence d'une intervenante psychosociale ou même temps. Donc, la multidisciplinarité qui revient dans ma vie.
Oui, ça, c'est important. Pourquoi cet aspect d'être avec d'autres, soit des travailleurs sociaux, peut-être d'autres intervenants dont vous allez nous parler, pas juste la spécialiste avocate. Pourquoi c'est important d'avoir cette multidisciplinarité que vous avez développée, que vous continuez de développer, je crois bien? Pourquoi c'est important?
Parce que moi, je crois que la justice, c'est très lié au social. Hein? On peut pas parler justice toute seule. Donc, justice, ça vient avec le social. Et une personne qui a une difficulté, en plus des personnes vulnérables, comme j'ai dit, il y a une grande complexité que on peut pas croire que juste une personne formée dans une sorte de profession va être capable de répondre à tous ses besoins. Donc, ça prend la collaboration, la complémentarité. Plus on s'y met ensemble, on va pas dédoubler, on n'a pas besoin d'aller se former dans tout le domaine. On peut juste s'y mettre ensemble avec d'autres personnes. On est nos forces, travailler ensemble, réfléchir ensemble, et on peut enrichir l'intervention auprès de cette personne.
Et vous pouvez voir des angles différents qui vont être complémentaires, si je comprends, au niveau des intervenants.
Exactement. Donc, on peut s'entraider. Donc, et avec cette expérience, on acquiert de plus en plus aussi un regard social de la question qui est juridique. Et les collègues dans les sociales vont aussi développer un regard plus juridique de leur intervention sociale. Donc, ça fait une complémentarité. Et en fin de compte, donc, c'est les personnes qui vont bénéficier de ça.
Vous êtes donc à InfoJustice et InfoJustice offre différents services. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui, des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent et diraient, peut-être que j'aurais besoin de soutien pour une chose, puis je sais pas où aller. Donc peut-être nous parler un peu des services qui peuvent soutenir la famille, qui peuvent pas nécessairement arriver à une situation de séparation, de divorce, mais peut-être même à un moment de crise où une famille a besoin d'éclairage.
Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était vraiment une grande joie de pouvoir intégrer l'équipe d'InfoJustice. Je me rappelle que quand j'ai cherché mon stage de barreau, j'avais déjà envoyé mon CV à InfoJustice de Laval-Laurentier de la Naudière, qui à l'époque était connu comme Centre de justice de proximité. Parce que juste en novembre l'année passée, on était appelé Centre de justice de proximité. Et ce n'est que maintenant qu'on est appelé InfoJustice pour rendre ça un peu plus facile pour les gens. Mais une fois je sais, c'est un organisme qui existe partout au Québec. Hein? C'est un réseau.
C'est un réseau. Donc, il y a plusieurs infojustices au Québec.
Exactement. Un réseau qui a commencé en 2015 pour répondre à un besoin vraiment criant de la population pour avoir accès à la justice, comprendre la loi, comprendre la démarche. Pour des personnes qui n'ont pas d'avocat, qui décident de se représenter seules, d'avoir de l'aide, de l'orientation pour être capable d'être autonome et mener son propre dossier à la cour. Donc, InfoJustice, c'est un organisme sans but lucratif, un milieu communautaire qui offre à la population la possibilité d'avoir des consultations juridiques, de l'information juridique dans quelques domaines du droit. Donc, moi, j'ai travaillé pour InfoJustice de Laval, Laurentie-de-la-Naudière, donc ces bureaux qui est à Saint-Jérôme, Bessès et Région. On peut offrir de consultations juridiques ou de l'information juridique en droit de la famille, droit de consommateur, petite créance, droit civil et droit de logement.
Ah, c'est très large. Donc, logement, oui. Petite créance, bien sûr, famille.
Oui.
Il m'en manque deux.
Civil.
Civil.
Oui. Et consommateur.
Consommateur, oui, parce que aussi, ça.
Exact.
Même si la famille va bien, ou elle a passé, en tout cas, elle grandit, mais il reste que la consommation. Il y a des défis, là aussi.
Mais oui.
Il y a des défis. Puis, on voit bien, là, avec. Notre environnement qui nous sollicite constamment,
ouais.
Il peut avoir des enjeux aussi, même ça peut avoir des répercussions sur les
ouais.
familles aussi, la
ouais.
consommation.
Et on est très, très axé sur les modes de règlement à l'amiable. Donc, on va favoriser tout mode de règlement à l'amiable, comme la médiation, l'arbitrage, la négociation. Parfois, quand une personne a un problème juridique, elle pense que problème juridique, égal, cours, palais de justice.
Ah oui, procès.
Argent et stress.
Temps dépensé à préparer un dossier.
Exact.
Avec les délais au niveau du juridique, des cours de justice, c'est des années.
C'est
alors,
ça.
Donc, médiation.
Arbitrage, négociation.
Est-ce qu'il y a des différences entre ça?
Oui, il y a des différences parce que quand on parle de la médiation, donc si on parle des médiations familiales, donc les médiateurs sont formés. Font passer de leur ordre professionnel. C'est vraiment encadré et aide les personnes qui traversent une séparation à trouver des solutions à l'amiable. Donc, on parle d'une personne qui est neutre, qui va être là pour les aider. Donc, c'est un espace vraiment pour permettre aux gens, en tout respect, de parler de leurs besoins, mais de développer une ouverture d'esprit pour trouver des solutions. Et rendu à une entente, donc ça peut être homologué par la cour et régler les problèmes.
Les enfants. Comment prendre soin aujourd'hui des enfants? Parce qu'on voit bien que les familles, on ne peut pas dire que les familles ont beaucoup de soutien dans la société.
Tu as raison.
Comment soutenir des enfants qui vont peut-être voir leurs parents dans un moment de crise, dans une séparation, dans un divorce ou dans d'autres situations que vous avez rencontrées? Comment on soutient les enfants? Comment on fait ça?
Oui, d'abord, je pense que c'est de sensibiliser les parents que, oui, une rupture en divorce, ça vient chambouler un peu la situation de la vie de la famille, mais à un moment donné, les parents ont besoin de se faire accompagner parce que c'est pas si facile de changer une réalité familiale. On peut même parler parfois, oh non, mais des parents en couple, même si ce n'est plus en couple, les enfants restent des enfants, les parents restent des parents, mais il y a toujours un impact sur les enfants parce que les enfants vivaient une réalité et ils ne sont pas au courant parfois tout à fait des situations, des crises qui se développent, qui à un moment donné, c'est la nouvelle, les parents se séparent, les enfants sont démunis. Les enfants souffrent beaucoup. Ils doivent aussi être accompagnés dans cette période. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai intervenu auprès des parents, c'est toujours d'aider les parents à recentrer les regards sur l'enfant et à trouver de l'aide pour se faire accompagner pendant cette étape aussi. Et pour juste tourner les regards, parfois qui est trop dans les conflits, dans tous les règlements du partage des biens ou des choses, mais juste de dire, regarde, trouver un espace pour déposer ses émotions, pour ne pas faire subir les enfants la charge de ses émotions. Et à un moment donné, plus on travaille fort, plus on se fait accompagner, on passe à travers cette épreuve. Il a un peu ressorti plus fort et il a un peu gardé quand même la bienveillance envers les enfants. Donc, je pense que c'est vraiment savoir que c'est une étape qui va passer, mais si on se fait bien accompagner et que si on centre notre regard sur l'intérêt de nos enfants, là, on va être capable de passer à travers et de garder quand même l'amour qui reste.
En une minute, Anna Paula Pessoa, est-ce qu'il y a des conseils par rapport aux aînés, par exemple, par rapport aux parents qui sont aînés, qui peuvent vivre aussi des difficultés, qui peuvent être séparés à cause de la maladie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible à ce moment-là au niveau du droit de la famille ou s'il y a des choses à développer?
Mais ce que je voulais dire, c'est que toute personne peut faire appel au service d'infojustice. C'est gratuit. La personne peut faire une demande en ligne, peut faire une demande par téléphone, laisser ses renseignements et prend un moment avec un avocat qui a une approche très humaine, une approche humaine pour écouter et guider la personne vers la bonne ressource. Et là, je voulais aussi dire, les grands-parents qui parfois ont des difficultés à avoir accès à ses petits-enfants peuvent aussi venir nous voir parce qu'on va pouvoir les éclairer par rapport à cette situation.
Merci beaucoup d'avoir mentionné les grands-parents parce que c'est des situations que sans doute vous connaissez très bien. Anna Paula Pessoa, avocate, engagée socialement, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de la saison 2025-2026 à Question d'aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas la dernière fois qu'on se parle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Renaud, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous pour votre écoute. Merci d'avoir été là tout au long de la saison. Ici Renaud Grégoire et je vous souhaite un bel été. Et je vous redonne rendez-vous à l'automne sur les ondes de Radio Galilée et de Radio VM.